Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
À Tracy-le-Mont, la MBO, Association pour le Musée des Brosseries de l'Oise, s'est engagée à sauvegarder et valoriser les savoir-faire et la mémoire des brossiers. Serge Son, responsable du patrimoine historique de la MBO, nous explique pourquoi cette industrie s'est développée dans l'Oise.
Alors les brosseries se sont installées dans l'Oise pour plusieurs raisons. D'abord, on est riche en arbres, en forêts et en hêtres en particulier. Donc les premiers brossiers qui sont installés se sont installés vers Saint-Sauveur et ont travaillé les bois de brosse. Ça a démarré comme ça, c'est attesté dès 1765.
Dans l'Oise, c'est parce qu'il y avait du bois simplement ?
Non, alors il y avait le bois et puis il y a d'autres facteurs. À Tracy-le-Mont, par exemple, on avait d'anciennes filatures qui se sont arrêtées dans les années 1840 avec un travail féminin à domicile, des savoir-faire. Et donc, il y a un Parisien qui est arrivé, qui s'appelait Étienne Laurenceau, qui est arrivé en 1845 pour racheter cette fabrique et qui était intéressé par l'entreprise, par la main-d'œuvre, par les savoir-faire. Ensuite, c'est la même période où s'installent les premières lignes de chemin de fer. C'est nécessaire pour transporter les matières premières, pour expédier les produits finis. Donc voilà, tout ce qui peut intéresser. Puis après, on tombe dans une période où c'est le courant hygiéniste avec une profusion de brosses qui commence à... Voilà, c'est l'objet manufacturé. Et puis on incite les gens à se brosser pour une nouvelle hygiène. Et surtout, l'Oise est à proximité de Paris, où sont installés les tabletiers, les brossiers. Et donc, voilà, ça devient facile de fabriquer et de livrer après ces objets dans les grands magasins.
Il y avait déjà un tabletier qui était à Tracy-le-Mont ?
À Tracy-le-Mont, le premier est tabletier. Il a une boutique dans les galeries du Palais Royal à Paris. Il vend essentiellement des objets de luxe, de tabletterie, des dominos, des petites boîtes avec des peintures à la main, des objets de luxe immédiatement. Et les premières brosses sont des brosses en ivoire et des brosses à dents.
Donc dans l'Oise, il y a une répartition qui se fait entre la brosserie traditionnelle et la brosserie de luxe.
La brosserie, c'est un peu la même, la brosserie traditionnelle. C'est la brosserie de luxe, mais après, il y a la brosserie peut-être plus quotidienne,
oui, voilà.
Avec des brosses, souvent les plus communes sont en hêtre. Mais la brosse en hêtre peut devenir tout d'un coup une brosse de luxe si elle est habillée avec de l'argent, par exemple.
Donc quand même, la matière première, elle vient d'où ?
La matière première, elle vient d'un peu partout. Les soies, par exemple, les soies, ce sont les poils, par exemple, des animaux, des soies animales, de porc, de chèvre, de cheval, du crin de cheval aussi. Alors les soies viennent de Chine et de Russie. Les bois viennent d'un peu partout. L'olivier vient d'Italie, l'ébène d'Afrique. Après, on a le citronnier aussi. Après, il y a toutes les soies végétales qui peuvent venir du Mexique. On a les os qui viennent parce qu'on fabrique avec l'os de bœuf, on fabrique des brosses à dents et des brosses à ongles. Les os viennent des boucheries parisiennes, mais viennent aussi d'Argentine, où il y a des élevages importants. Et on fabrique à la Belle Époque de telles quantités de brosses en os qu'on importe et on profite de tous ces transports qui se multiplient à cette époque-là, comme le paquebot, enfin les lignes de chemin de fer, on profite de tout ça.
Mais à Tracy-le-Mont, donc, il y a des démarcheurs qui vont dans le monde entier pour trouver toutes ces matières. Comment ça fonctionne ?
Bon, ça, on n'a pas encore toutes les réponses. Il y a encore un gros travail d'historien à mener. Le patron important de Tracy-le-Mont s'appelait Charles Lenaine. Il héritait de l'entreprise de son père, Ferdinand Lenaine, qui était d'origine hollandaise. C'est une famille qui parlait évidemment plusieurs langues étrangères. Il maîtrisait l'anglais, l'allemand, l'hollandais, évidemment. Charles Lenaine, à 24 ans, il allait à Londres pour créer une boutique en plein Londres pour vendre les produits de l'entreprise. Et puis, 2 ans après, il allait à New York pour, pareil, reconnaître un peu le marché américain qui était à l'époque dominé par les Anglais, parce que les brosses traditionnelles étaient vendues par les Anglais au tout début du 19e siècle. Et puis finalement, les Français ont pris la place, et Charles Nonnen notamment, puisque 4 ans après son premier passage aux États-Unis, c'est lui qui est le premier exportateur de brosses, de toilettes. Voilà. Et il a une boutique à New York.
Alors l'âge d'or de la brosserie, ça a été 1850-1950. Pourquoi ça s'est arrêté dans les années 50 alors ?
Alors, il y a eu plusieurs étapes techniques d'abord. Il y a eu les premières machines semi-automatiques. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu les machines automatiques qui ont commencé à voir le jour. Il y a des entreprises qui se sont engouffrées dans ces nouvelles machines et dans des nouveaux investissements qui étaient lourds pour les entreprises. Puis il y a celles qui n'ont pas pu. Il y avait beaucoup, beaucoup de petites brosseries qui n'avaient pas tellement les moyens. Toutes les brosseries ne fabriquaient pas non plus les brosses de A à Z, depuis l'arbre coupé ou les plateaux avec la découpe de la forme jusqu'au produit fini. Parfois, c'était juste une étape de la fabrication. Donc voilà, il y a eu des entreprises qui sont mortes à ce moment-là. Ensuite, il y a eu la guerre de 14. Donc pareil, il y a eu des déplacements d'entreprises, de l'Oise jusqu'à Montargis, par exemple. Et puis, après la guerre, il y a des entreprises qui avaient disparu totalement. Les années 30, ça a été une période de fusion d'entreprises, des grosses entreprises. Et les entreprises de Tracy et les établissements Lonnen ont fusionné en 1928 et 1932. D'abord, l'entreprise Lonnen est devenue, avec d'autres entreprises de l'Oise, la nouvelle SA Labrosse. Et puis en 1932, Labrosse a rejoint l'entreprise Dupont. Et c'est devenu Labrosse et Dupont, qu'on connaît encore aujourd'hui sous LBD Maison, par exemple, à Béthisy-Saint-Pierre.
À Tracy, il y avait combien de personnes qui travaillaient à cette époque-là ?
Alors, à la Belle Époque, il y a 2000 personnes qui travaillent pour les brosseries de Tracy. Mais ce n'est pas seulement les habitants de Tracy-le-Mont, c'est les habitants de tous les villages environnants, Carlepont, Saint-Léger, Attichy, jusqu'à Crépy-en-Valois, où on donnait du travail pour les brosseries de Tracy-le-Mont.
Parce que la particularité de cette entreprise, c'est que les gens travaillent à domicile.
Voilà, c'est 70% de travail féminin à domicile. Il y a aussi les hommes, hein, des tourneurs par exemple, ils ont leurs ateliers chez eux, et le contremaître va distribuer du travail tous les 15 jours, et on paye ce qui a été fait. Voilà, donc il y a beaucoup de travail à domicile. Et puis dans les usines, hein, dans les manufactures ou les fabriques, comme on les appelle, suivant les époques, on découpe les plateaux, on perce, on fait le contreperçage, on fait le traitement des soies. On prépare en fait les matières premières qui vont être distribuées dans les maisons, et pour que les brosses soient ensuite montées, que les brosses soient garnies, comme on dit.
D'accord. Donc ça s'est arrêté dans les années en 1955, si j'ai bien compris.
Alors cette entreprise-ci, qui s'appelait l'entreprise Comelin-Brenier, elle a fermé en 1955. Oui.
Si je suis là aujourd'hui à Tracy, c'est pour parler aussi du séchoir à os, puisque j'ai vu que dans le loto du patrimoine, le séchoir a été retenu pour être financé en partie.
Voilà, le séchoir, c'est un bâtiment qui nous tient à cœur, parce que c'est un bâtiment original, emblématique de cette activité de la brosserie, puisqu'il a été... On a vraiment créé un bâtiment où on pouvait sécher naturellement les matières premières, le bois et l'os, avec une aération naturelle de par sa construction, de par sa maçonnerie. Et ce bâtiment, qui n'avait pas été entretenu pendant plus de 25 ans probablement, était vraiment, comme on dit, un bâtiment en péril. Donc quand on a repris ce site en 2016, on s'est dit que vraiment il était temps de le sauver, sinon il risquait de s'écrouler, et d'autant plus qu'on a vécu des tempêtes à chaque début d'année depuis 2016, et à chaque fois le bâtiment s'est détérioré. Donc on a d'abord fait des travaux d'urgence qui ont été à la fois financés par l'association et par le département de l'Oise. Ça a permis de sauver le bâtiment, ça, on nous l'a confirmé 2 ans plus tard. Et puis, on a fait une campagne de financement participatif. Il y a eu un dossier qui a été monté avec la Fondation du patrimoine, et on a été sélectionné par la première mission Berne. Et ça a été un petit coup d'éclairage sur notre association et nos projets. Et on a pu commencer en septembre dernier des travaux de restauration avec des chantiers d'insertion.
Comment la Fondation du patrimoine suit le dossier ?
La Fondation du patrimoine était encore là hier avec les architectes des bâtiments de France pour contrôler le travail qui a été entrepris depuis le mois de septembre avec notre architecte, avec l'association Château pour l'emploi qui mène ces chantiers d'insertion. Donc il y a vraiment une équipe qui travaille pour cette restauration à l'identique, vraiment pour que le bâtiment reste dans son jus, quoi. C'est un bâtiment en terre battue, il restera en terre battue avec des joints faits à l'ancienne.
Ce séchoir, il fait partie d'un ensemble, de l'usine. Comment vous allez réhabiliter tout cet ensemble ?
Alors, ça a commencé il y a 3 ans avec du bénévolat, des chantiers participatifs tous les week-ends avec d'abord les copains, puis les copains des copains, des gens qui viennent d'un peu plus loin, des personnes qui nous contactent sur les réseaux sociaux parfois pour venir s'engager à ce projet d'économie sociale et solidaire. Donc ça, les travaux d'embellissement ont commencé comme ça. Et puis les chantiers d'insertion, là, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans notre projet global. Pour la suite, on a besoin de mécénat. Ça va être sûrement l'avenir pour nous de trouver des mécènes. On a plusieurs associations qui sont reconnues d'utilité publique. Donc et on peut faire bénéficier du rescrit fiscal. On a déjà des premiers donateurs, mais pour des projets de musée de la brosserie, pour faire un atelier qui soit à destination des enfants, il pourrait y avoir des démonstrations avec des artisans pour faire un joli musée parce qu'on a un beau patrimoine d'environ 10 000 objets. On a besoin de mécènes pour faire ces travaux parce que nous, on a des moyens qui sont très réduits.
Alors là, il y a donc le séchoir à os, il y a le musée et l'étape suivante, c'est quoi ?
Ah ben, l'étape suivante dans la... La formule rêvée, ce serait d'avoir un musée de la brosserie, un bistrot de pays, des artisans qui s'installent sur le site, et puis de faire revivre ce lieu, d'accueillir des visiteurs, de proposer des animations. On a déjà une association aussi qui s'appelle Trace et Compagnie, qui fait des concerts, du théâtre, des cours d'art plastique. Donc ça vit déjà.
Mais j'ai cru comprendre que vous rêvez aussi d'un musée ambulant.
Oui, alors le musée ambulant, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que les écoles ont de plus en plus de mal à aller au musée pour des histoires de financement, de transport de cars qui coûtent cher. Donc nous, on se propose d'aller au-devant d'eux et d'aller les rencontrer, de leur proposer des animations, des démonstrations, des initiations à des savoir-faire, comment on faisait une brosse, mais aussi comment fabriquer un balai de sorcière, par exemple, de 15 cm. C'est très facile à faire, mais c'est très, très amusant à faire ensemble.
Alors, comment on fait pour vous rejoindre ?
Alors, pour nous joindre, on peut m'appeler sur le téléphone de la MBO, le 06 80 38 34 16. Il y a un site internet, ambo.fr. J'ai une page Facebook aussi, Serge AMBO. Donc là, il y a des informations qui sont données quand il y a des événements. C'est ouvert au moment des journées du patrimoine. Et puis sinon, pour les groupes sur réservation, on peut faire des visites du site. Voilà, ça démarre comme ça. Et pour les animations dans les écoles, dans les collectivités, c'est pareil, il faut nous joindre. Et puis on fait un peu des visites à la carte.
Et puis on peut toujours aussi vous appeler pour vous apporter des objets.
Alors, chaque année, on a la chance d'avoir des donateurs, des brossiers ou des enfants de brossiers ou des collectionneurs, parfois, qui nous font des dons assez extraordinaires, comme cette dame qui est venue il y a 2 ans avec sa famille, qui toute sa vie avait collectionné des brosses qui venaient du monde entier. Et elle a fait don d'une collection d'environ 200 brosses à l'association. Et on a hâte de pouvoir présenter ça au public.
Les prochaines journées du patrimoine, ça sera au mois de septembre. On espère qu'à ce moment-là, le séchoir sera rénové.
Voilà, c'est l'objectif en septembre prochain d'avoir un séchoir terminé avec nos chantiers d'insertion et de pouvoir faire découvrir cet espace qui est magnifique et qui pourra accueillir à l'avenir des expositions ou des animations.
C'était Hervé de Chornier qui, pour RVM, vous emmenez à la découverte de l'association du musée des brossiers de l'Oise qui s'est donnée pour mission la sauvegarde de la brosserie de Tracy-le-Mont et de son séchoir à os.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.